se lève, j'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. L'allée de pâle traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'or tant fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Nous abandonnions un monde qui avait ses, non pas ses tabous, mais ses croyances, ses foi, ses critères, qui étaient bâtis sur tout un ensemble de réalités sociales et morales.
Ce serait la suspension instantanée de toute activité économique, industrielle, commerciale, agricole.
Du jour au lendemain, tout cela avait basculé et était remis en question.
Bon, moi, j'étais ému, je ne vais pas dire ça. Je n'ai jamais oublié ce départ.
Je crois que, en définitive, pour ceux qui ont traversé ces épreuves...
Puis alors, on a contourné les fortifications. Puis il y avait un des petits gosses qui nous suivait. Biscuits soldats, biscuits soldats. Alors, on donnait des biscuits. Puis alors, on revenait vers l'esplanade. Et alors là, c'était un défilé, alors il y avait...
Je me rappelle tel ancien combattant disant « Celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler. »
Il y avait canne levée, il y avait mouchoir agité des femmes. Ben, c'était émouvant, hein. Ça nous secouait hein, quand même.
C'est intransmissible. Et malheureusement, sans quoi il n'y aurait, je crois, plus jamais de guerre.
La mobilisation est un véritable tour de force. Dès qu'elle est ordonnée, tous les transports civils sont supprimés et le premier acte est de rassembler les wagons couverts et plats et d'équiper avec des bancs militaires une forte proportion des wagons couverts porteurs de la fameuse inscription « Hommes 40, chevaux en long 8 ».
Nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, nous ne voyons plus que des fantômes et des morts.
Chaque organe du chemin de fer a un journal de mobilisation indiquant heure par heure et pour chaque jour de la mobilisation toutes les opérations à faire, Ces documents sont secrets, enfermés sous plis cachetés, déposés eux-mêmes dans des coffres-forts.
Comme je sors pas de l'école normale, mon colonel jugea tout naturel de faire peur à ce bavard que j'étais. Et je me vois encore monter sur une table au milieu d'une cour de caserne, encourageant au départ. Tous les soldats qui devaient partir le soir. J'ai fait ce discours. Je suis sûr d'avoir pas menti. Je suis sûr d'avoir dit que ce que je pensais, mais je ne peux pas dire. Comme ce discours a pu être pour moi douloureux.
Alors j'ai été affecté à l'armée de Lorraine, l'armée Castelnau, et le 24 août, si ma mémoire est bonne, 24 août 14, j'ai reçu l'ordre d'attaquer en direction d'une forêt qui s'appelle la forêt de Réméréville, dont la lisière était tenue par des unités bavaroises. Engagé conformément au principe de Saint-Cyr, c'est-à-dire que nous avons été décimés très rapidement par les mitrailleuses, alors que nous n'avions pas d'appui d'artillerie.
On a fait des repérages, quelques bombardements, avec la VP-101, qu'on a préparé, la VP-101, le raid sur le Witschafen. Alors là, c'est un fameux raid. Hein. Il y avait une vingtaine d'avions. Alors, c'était plus l'escadrille.
Les deux premiers qui ont été enterrés dans le cimetière, c'est moi qui les ai enterrés avec mon père, André Tatar et son père.
On dépose le brancard à la fosse. Le curé récite les prières. Bon, très bien. Cérémonial terminé. Bon. Elle descend dans la fosse.
À un moment donné, je me suis trouvé le seul officier debout dans mon bataillon. J'ai fait ce qu'on m'avait enseigné, j'ai sorti mon sabre et je suis parti. Puisqu'on m'avait dit d'attaquer, je l'attaque et je voulais que je fasse de mieux.
Il dit, Eugène, descends dans la fosse avec André, les plus jeunes. J'avance le brancard tout du temps, nous on en prend une poignée chacun.
C'était le groupe de bombardement, le B101. Mais là c'était des officiers qui ont monté avec les pilotes, c'était pas les mécaniciens. Bombardé à Malzéville, on a coupé un arbre qui était sur le plateau et on a monté une batterie de 75 dessus pour tirer quand les avions allemands venaient nous bombarder. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de. Les canons, les 75 ne peuvent pas tirer à verticale.
Mais c'est des épisodes terribles. Alors, on l'a bien allongé. Et je n'ai pas eu l'idée de voir le numéro de son régiment. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien pas. Alors, quand c'était terminé, j'entends encore le curé qui dit « Eugène, mets-lui son képi sur ses yeux. »
Et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel. Deux éclairs. Deux claquements. Et le premier Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas et du nord au midi, la trompette guerrière. Tremblez, ennemis de la France, roi libre de sens et d'orgueil, le peuple souverain s'avance.
Le lendemain matin de la mobilisation, je suis sortie de chez moi et j'ai trouvé le boucher sur le seuil de sa porte avec des magnifiques chaussures fauves, avec des clous, avec des machins, avec des trucs extraordinaires. Il était avec les chaussures en avant et il disait « Nous les attendons de pied ferme ».
Les Germains nous ont envahis de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution.
Quand on m'a opéré, j'ai chanté. Alors le chirurgien s'est hué, m'a opéré à l'hôpital du Grand Palais de Paris. Ça, on parle de vieux, ça, c'est en 1915.
Cela, pour nous, c'est devoir essentiel. Commandement de la patrie. Rester unis.
Et ils n'en dormaient pas encore en forme dans le temps, ils en avaient à l'éther. C'est pas bon les terres, vous voyez, au bar. Alors, en m'endormant,
mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier, prévoir.
Je me suis mis à chanter la Marseillaise, je sais pas pourquoi, j'en sais rien pourquoi. Mais, l'ambiance.
Des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été plus unie.
Alors chantez la Marseillaise.
Les Français suivaient des chemins différents.
Et le chef de chirurgien
se sont rejoints au travail.
C'est ce qu'il a fait. Et il était tellement heureux. Le lendemain, il m'a apporté une pipe. Il m'a fait cadrer une pipe. Parce que je fumais la pipe.
Même dévouement. Même idéal.
C'est pour ce sort-là qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes.
Les héros qui affrontent la mort savent la mort de Pépin, leur vie, l'âme brève, on allume une autre mortelle. Et l'ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchire est ce qui nous unit, la passion au droit.
Bon bonhomme, très sévère. Avec lui, il ne fallait pas de pillage. Un pilleur n'est pas un soldat. Tout celui qui m'a pillé, il dit mon revolver est là. Personne n'y a été. Un homme qui ne pouvait plus, par ses paroles, par son entraînement, bien marcher. C'était un officier hors ligne. Et on était 8 volontaires qui marchaient avec lui partout, à l'avant-garde. J'en faisais partie, mais on était 8. Alors, on n'avait plus d'ordre. Il arrivait un officier d'ordonnance des tambours marocains qui était sous Choconin en demandant au capitaine, qu'est-ce que vous faites? Le capitaine dit, moi, je n'ai pas d'ordre. Moi, officier d'ordonnance, je vous donne ordre d'avancer. Aussitôt, les officiers sont enlevés sans boclet pour faire un bond de 50 mètres. Peggy a reçu une balle dans la tête. Il criait « Tirez, 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 tirez toujours !»
les raisons n'ont pas de gamin. Il a été chargé par le général Joffre de former son arme, qui s'est appelée l'artillerie d'assaut. On nous avait donné des appareils, ils étaient ce qu'ils étaient.
On nous donnait dans la chasse du cyanure de potassium, mais dans une boîte. Et alors que je me rappelle qu'un jour, au-delà de Pont-à-Mousson...
Il marchait plutôt mal que bien. Et bien entendu, tous nous sommes mis à essayer de modifier, d'améliorer nos chars. Et au bout de 15 jours, plus un char ne marchait.
Sans que cette fois dans la Pont-à-Mousson, j'ai eu, à un moment donné, une panne sèche. Pas un ralentissement, pas sur un aéroport. Un aéroport, mauvais pas le type.
Alors, le général Étienne venait nous voir en souriant et nous disait, bon, ben, voyez-vous, dans la vie, il faut être des réalisateurs. Qu'est-ce qu'un réalisateur ?
J'ai eu une panne sèche et je me suis posé en territoire ennemi. Et alors, je me préparais à sortir ma...
C'est le monsieur qui crée sciemment une œuvre imparfaite. Vos chars, bon, ils sont mauvais, c'est une affaire entendue. Mais ils ont une grosse qualité, c'est qu'ils existent. Eh bien, remettez-nous tout en ordre. C'est ce que nous avons fait. Et en effet, les chars se sont mis à marcher.
Ma petite boîte de potassium, et puis la vallée. Je vois un escadron de cavaliers qui se dirige à toute allure vers moi. Et j'étais là, je tirais sur mon levier d'accélération pour essayer de mettre le moulin et tourner. J'essayais de lui faire la brise et il est arrivé. Et on m'a dit, ça repart. Et alors ils étaient à peu près à 400 mètres de moi. Alors je mets plein de sens et je me dirige vers eux. Et puis en voyant, ils s'écartent. Pam, je fais une épingle à cheveux, enfin un virage à la verticale du côté gauche et je rentre.
À côté du cimetière de Villers, il y avait une bande de terrain qu'on cultivait. Et puis, on a fait une démarche, et puis on a été à la commandature avec Schmer. Et puis, ils nous ont donné un papier pour pouvoir, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'aller au cimetière, on n'a pas le droit de sortir entre telle heure et telle heure. Alors, total, on est arrivé à avoir un laissez-passer pour aller planter des pommes de terre. Alors, on a été planter des pommes de terre, on s'en allait avec les bêches, les brouettes, et puis on plantait des petites pommes. Et je me disais, tant pis pour vous, si on voulait planter, tant pis. Et puis on nous a planté, on plantait des chaudes pommes de terre, on disait, ma foi, à la grâce, on récoltera certainement. Puis comme de juste, on a récolté nos pommes de terre. Alors, total, nous avons été privés de beaucoup de choses, mais faim, nous ne l'avons pas eu parce que tellement qu'on s'organisait pour tout, quoi.
Mais s'ils annonçaient quelque chose d'heureux, on y croyait quand même un peu. Les journaux aussi nous trempaient. Quand arrivant en repos après une attaque meurtrière, nous lisions dans le communiqué que nos pertes avaient été légères, les imprécations éclataient. Et ceux qui sont restés en haut de la crête, on n'en parle pas. Et ceux qu'on achetait dans la fosse, ils ne les ont pas comptés, ces salauds-là.
Alors, dans notre rue, il y avait un ouvrier, meunier, qui travaillait à ce moulin-là. C'était un Gascon. On n'a jamais su comment il était arrêté là. On a toujours cru que c'était un soldat français qui avait été isolé puis qu'il était atterri là. Alors, ces meuniers-là, ils ramenaient, après leur journée, des petits sacs de farine dans leur poche. Ces sacs-là de farine étaient promis à des habitants de Rennes, des habitants sûrs, très sûrs, naturellement. Alors ensuite, n'ayant pas assez de farine pour leurs clients, ils avaient pris des complices, ils allaient la nuit prendre la barque des maraîchers, ils remontaient le courant jusque derrière le moulin, et de là, les meuniers leur passaient des sacs de farine par des fenêtres. Puis il y avait des porteurs de farine. Alors, dans moi, j'en étais un. Père l'écuyer, enfin, je l'appelais Père l'écuyer, il me donnait des petits sachets de farine, il me disait, eh ben, tiens, tu iras les porter à tel endroit.
De quoi demain serait-il fait? Il était possible qu'une paix boiteuse vint jamais s'asseoir et souffler sur les décombres de nos villes détruites. Un nouveau traité draconien serait aussitôt imposé à notre latitude.
Ils sont là, il faut les supporter. Surtout, il ne faut pas avoir de résistance. Puis dis toujours, ne me faites pas fusiller. Tâchez d'être sage.
Sur la vassalité politique, morale et économique de nos ennemis, industriels, cultivateurs, ouvriers français, seraient à la merci de rivaux triomphants.
Puis, alors, on y obéissait. Et puis si vous avez des armes, puisque les réclamés sur tout ça, si vous avez des armes, il faut les donner. Puis nous autres, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien du tout. Et puis total, ça s'est très bien passé.
Et la France humiliée s'affaîtrait dans le découragement et dans le mépris d'elle-même.
Puis quand ils avaient envie de faire une perquisition, ben, c'était bien, bien simple. Il y avait appel sur la place. Alors tout le monde devait se rendre sur la place, et alors nos maisons étaient visitées.
Donc oserait faire cette injure au bon sens public et à la clairvoyance nationale.
Nous ne pouvions pas leur dire rien, et puis eux, nous ne disaient absolument rien.
Il n'est pas un seul de nos soldats, il n'est pas un seul citoyen, il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race et non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus aux lourdes minutes de cette guerre inexorable.
Comme ça, ça c'est à Villers, ça s'est toujours très bien passé, parce que je me dis, ils sont là, nous ne pouvons pas les éviter. Il faut vous taire, il faut obéir, il faut essayer de vivre comme nous pourrons.
Il n'y avait pas le temps de revenir au sol, il fallait jeter par-dessus bord. Il n'y avait pas de parachute. Alors il y avait les seuls parachutes qui existaient pendant la guerre de 14-18, c'était les Draken qui les avaient, les saucisses, quoi.
On avait un fameux avion là, qui nous mitraillait tous les jours. Tous les jours au matin, quand on masse, là. Voilà.
Les officiers de... Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir sauver un lieutenant d'artillerie, comme ça.
On l'aimait pas, celui-là. Il y avait des rubans qui se promenaient. On l'appelait Van Montier, nous. Mais il nous mitraillait. Hein.
Un Allemand arrive, met le feu au Draken, le type se jette en parachute. L'Allemand, généralement, c'est ce qu'on ne faisait pas, nous. Pique sur le type et le mitraillait. Je suis arrivé, j'ai pu éloigner l'Allemand et le type a pu atterrir.
On se planquait dans... En dessous des... Il laissait tomber des grenades dans les tranchées, hein. Oh, c'était à 14 du matin, ça. Oh, oui. À la pointe du jour.
Je me suis évadé. C'est-à-dire que les colonnes pour partir travailler, il y avait une centenaire de millimètres.
On espérait devoir qu'une fois la fin de blessure, hein. Faut pas croire qu'on cherchait le combat, hein.
Seulement, ceux qui j'étais... qui partaient en avant, ils avançaient vite, puis ceux qui étaient derrière, ils avançaient doucement. Ça fait qu'au lieu d'avoir une sentinelle tous les 10 mètres, ils n'avaient plus que tous les 100 mètres.
C'est humain, ça, faut dire, la vérité. Comment, c'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai. Mais tant qu'on était là, bah, on se disait, bah, il faut y aller. Hein.
Puis là, j'ai tombé justement sur un petit bosquet qu'il y avait là. Puis je fous le camp dans ce petit bosquet, puis il y avait justement un camarade qui s'était sauvé aussi, puis il était là. On est tombé à dos, bien sûr, puis il est resté à dos, bien sûr. Et puis d'un seul coup, là, il y a une autre bande qui se sont sauvés à 4-5, et puis les Allemands étaient derrière. Puis ils s'amenaient pour fouiller le bosquet, Mais ils ont aperçu les autres qui se sauvaient, puis un qui l'a laissé un veston croché au mur. Au mur, c'est-à-dire à l'œil. Puis les Allemands, en arrivant, ils ont vu mes vestons, ils ont parti par là. Et nous, on a foutu le camp de l'autre côté du bosquet. On est parti, bien sûr.
Et on savait qu'on allait au danger. C'est toujours la même chose. Il y a l'instinct de conservation qui est ça, qui est en nous. Ça fait. Oh oui, ça. Autrement, il n'y aurait pas de mérite d'aller au combat. C'est l'instinct de conservation, mais il y a toujours ce sentiment de l'honneur. Le mot n'est pas excessif, sentiment de l'honneur, de tenir.
Ne croyez pas, parce qu'on passe au-dessus de vous, qu'on voit tout ce qui se passe. On ne voit absolument rien. Il est très rare que nous voyons des Boches dans leurs tranchées. On passe trop vite.
Parce qu'on est là, il n'y a pas comme nous, avec des camarades. On ne peut pas lâcher la rampe. Hein, non. Si on subissait beaucoup de pertes, et bien à ce moment-là, le régiment était relevé. C'est automatique.
Vous êtes, vous, fantassins, souvent mitraillés par des avions Boches qui enfile une tranchée et tire des coups de mitrailleuse.
On arrivait même quelquefois à souhaiter presque qu'il y ait des pertes, tout au moins pour les survivants, pour lui s'en relever, parce que au fond c'était intenable. Quand on a été relevé, on respirait, ça c'est humain. Hein.
C'était pas très facile parce qu'il n'y avait pas de moyen de communication entre le monsieur qui était en l'air et le monsieur qui était à terre. Nous, par exemple, dans un tir, il faut indiquer si le tir est à droite ou à gauche. Ben, pour dire que le tir était à gauche, on tournait à gauche. Pour dire qu'il était à droite, on tournait à droite.
Pendant la réserve, nous relevés de réserve, des gens tombaient dans l'eau, dans les trous d'obus dans l'eau. Ils se mettent à deux copains maintenant 5 minutes pour y rester, leur lui donner un fusil, tirer pas moyen de l'avoir, et laisser là, et bon le monde. On dit on va avertir les. On n'avait pas le droit, on n'a pas le droit, nous. On va avertir les brancardiers. Les scrapnels aussi.
Elle a fait surgir des profondeurs où elle paraissait endormie. Tous certains, les dix étaient peints. Nos ennemis les croyaient à jamais morts, les qualités et les vertus les plus nobles de notre race.
Puis ils ont crié après moi et d'autres, qu'on voulait aller vite. En sautant, on tirait d'une tranchée pour gagner 100 mètres, pour aller plus vite à l'arrière, pour aller plus vite à l'arrière. Et ils criaient notre copain, allez, allez, nous venez, nous venez.
Toutes celles, nos épaules les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire. Alors, l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise.
Aussitôt, on avait gagné 100 mètres. On tombait dans la tranchée, mais on avait gagné 100 mètres. Des petits grains d'obus, un obus qui éclate en 10 boules, 10, 15 boules.
On sut chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli.
Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains?
Ce miracle, il est la première heure, dans un élan unanime de fraternité et de confiance.
Where are our headquarters? Où est notre quartier général? I want to find my regiment. Je veux rejoindre mon régiment.
À rapprocher tous les Français divisés, la veille, par des dissensions. Donc beaucoup espérons-le, ne renaissons pas après la guerre.
Have you seen the enemy? Avez-vous vu l'ennemi? I am short of cartridges. Il me faut des cartouches. Can you give me any information about the enemy? Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi?
Les Allemands s'efforcent d'éviter de formuler le pénible aveu. La délégation est là, dit tout d'abord M. Herzberger, pour recevoir les propositions des puissances alliées. Le maréchal répond n'avoir aucune proposition à faire.
C'était des bombardements affreux, quoi. Vous savez, dans la bataille, c'est un bruit épouvantable, je sais pas. C'est inimaginable, le bruit d'une bataille. Des centaines de pièces de canon qui tirent en même temps. Nous, on a eu la chance, pour débuter, on était en position dernière ligne du chemin de fer.
Le comte Orbendorf exprime l'idée que le mot « condition » convient peut-être mieux. Cela ne satisfait pas le maréchal. Monsieur Asperger biaise encore en donnant lecture d'un texte du président Wilson, disant que le maréchal est autorisé à faire connaître les conditions de l'armistice.
Alors les obus qui tiraient un peu court, ils tombaient là. Puis ceux qui étaient un peu longs, ils nous passaient sur la tête. Ils tombaient là. Alors après, il y avait des vaches qui ont tous été tués d'ailleurs.
Je suis autorisé à vous faire connaître ces conditions si vous demandez un armistice. Demandez-vous un armistice, interroge d'un ton sec le maréchal. Oui, nous demandons la conclusion d'un armistice, répondent d'une seule voix et avec une certaine précipitation, M. Erzberger et le comte Oberndorf.
On n'était pas beau à la fin de la bataille. Bon, à la fin de la bataille, moi j'étais couvert de poux, couvert de boue, les deux tympans crevés. Alors pour se débarrasser de moi, on m'envoyait en permission.
Les hommes partirent, les femmes pleurèrent, mirent les chaussettes dans la musette, le pain, le saucisson et le kilo de vin. Mais ne dirent rien. Elles écrivirent « N'attrape pas froid, ça durera 3 mois ». Et l'infirmière attendait blessée comme le boucher. Et pas une ne criait « Assez ». Le poilu était le parent pauvre, donc de province. Un an après, le vieux grand-père à la campagne. Elles ont veillé du chocolat ou encore du tabac. Pas une ne disait « Assez, reviens ». Les uns avaient assassiné Jaurès. Les autres avaient plus faim de curé. On mangeait du boeuf dans le communiqué. Jean, Alice et Marie flirtaient avec l'anglais, les américains. Et pas une ne disait « Assez, reviens ». Prisonniers, amputés, morts, ou peut-être encore disparus. Patients, le poilu est revenu. Mais les femmes ne l'attendaient plus.
Bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur Radioactive dans un nouveau mag et aujourd'hui on vous emmène avec nous à La Charpente, un lieu culturel amboisien qu'on aime beaucoup et qui fête ses 10 ans, c'est samedi 4 et dimanche 5 mai. Et à La Charpente, la maîtresse des lieux, c'est Anne-Laurence Badin ou Nanou, co-créatrice de ce projet avec Alex. Bonjour Nanou.
Bonjour.
Alors, La Charpente, c'est un lieu d'accueil artistique qui était un atelier de charpentier et que l'association a entièrement restauré pour en faire une salle de spectacle dans le but d'y accueillir des artistes du spectacle vivant. Donc on y retrouve finalement de la danse, de la musique, du théâtre, un petit peu de tout. C'est un lieu qui est entièrement équipé techniquement et on peut le dire tout confort. Alors Nanou, est-ce que tu peux nous décrire l'espace un petit peu, parce que les auditeurs ne voient pas, mais comment c'est fait ici?
Ah bah, il va falloir venir ce week-end en fait. En fait, le lieu donc a été séparé pour faire en fait la salle de répétition qui peut servir potentiellement de salle de spectacle, effectivement. Il y a une loge aussi pour les artistes, évidemment. Il y a un foyer qui est un lieu du coup de voilà d'échange et de partage avec un bar, puisque à la sortie des résidences, des présentations des tables de travail avec les artistes qu'on accueille, donc il y a un temps d'échange, donc voilà, on partage dans le foyer. Il y a une petite grignote, un petit coup à boire, histoire de papoter, d'échanger les avis des uns des autres. Et il y a une cuisine, évidemment, pour les artistes qui viennent ici, parce qu'ils sont là sur plusieurs jours. Donc, pour se faire à manger, voilà, ils sont du coup tout à fait autonomes. Et à l'extérieur, il y a une petite cour bien sympa, surtout au printemps et en été, voilà, pour être un petit peu dehors et prendre l'air après une bonne journée de travail.
Alors justement, cet espace extérieur, mais pas que, va être investi ce week-end puisque La Charpente a 10 ans. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme ?
Alors, le programme, en fait, il est très free et qui va dépendre un petit peu des gens qui vont venir sur ce week-end, puisque nous proposons une scène ouverte. Donc, une scène ouverte aux artistes voilà, professionnels, donc que ce soit des danseurs, musiciens, comédiens, voilà, qui ont envie de présenter peut-être un projet en cours ou une étape peut-être d'un travail qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils ont envie de tester, voilà. Il y a une amie qui va faire un stand-up. Enfin, voilà. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça va être un peu de la surprise, en fait, pour ceux qui arrivent selon l'heure, à l'apéro, plus tard dans la soirée ou à partir de 16h pour le goûter. Il peut y avoir toutes sortes de choses et ça va être improvisé, on va dire. Et dans la cour, puisque c'est ouvert à toutes et tous et pour les enfants aussi, il va y avoir des jeux aussi, que ce soit convivial et récréatif, que ce soit une fête d'anniversaire. C'est pas un week-end de programmation artistique, c'est un week-end anniversaire, donc festif.
Donc les amis sont tous invités à amener leurs amis et à venir profiter de ce moment. Ça veut dire aussi que les artistes en herbe qui nous écoutent peuvent prendre contact avec toi, avec l'équipe de La Charpente, pour éventuellement se produire un petit peu ?
Absolument, il n'y a pas de souci. Vous pouvez du coup me contacter via le site de La Charpente qui est assolacharpente.fr. Et puis dans le petit onglet contact, vous me laissez un petit mot voilà, pour qu'on essaye d'organiser un peu quand même les passages, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas un embouteillage voilà, d'artistes pour tout ça. Ouais.
Alors 10 ans, c'est pas rien, c'est un bout de vie quand même tout ça. Et moi, j'avais envie de te demander quels étaient tes meilleurs souvenirs de cette décennie à La Charpente.
En fait, les meilleurs souvenirs, c'est le gros événement qu'on a fait trois fois, c'est-à-dire Pièce Jointe, qui était quand même un événement avec plein d'artistes sur des principes de performance d'artistes et qui mélangeait plusieurs disciplines. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires d'échange, voilà, de compétences et d'envie. Et ça, c'était vraiment des très, très beaux moments. Après, quand même, sur 10 ans, j'ai regardé un peu les chiffres, hein, on a accueilli quand même plus de 200 équipes artistiques, que ce soit comédiens, danseurs ou musiciens. Donc c'est assez, quand même, je l'avoue, émouvant de penser à tout ça. Et on a fait, je sais plus, une bonne soixantaine de sorties de résidence, donc chaque fois avec du public d'Amboise ou des environs, voire de Tours, enfin voilà. Donc ça veut dire que quand même, en 10 ans, on a brassé vraiment quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est super parce que ce lieu n'est pas un lieu qui a vocation à être ouvert au public. C'est vraiment un lieu de travail pour les artistes. On n'est pas une salle de spectacle, on fait pas de programmation. C'est juste de temps en temps ouvert au public. Voilà. Donc quand même, je trouve ça formidable de pouvoir faire un espèce de constat comme ça. Constat que vous pourrez visionner, ceci dit, dans le foyer ce week-end, puisqu'on a fait un diaporama avec des photos, des travaux, des résidences, voilà. Donc il y a un petit remake, là, où tout le monde va avoir un petit peu la larme à l'œil, et la séquence émotion, comme on dit. Voilà, ouais, c'est ça.
Et parmi toutes ces belles expériences, quel a été le plus gros défi ? Peut-être les travaux, déjà, ça a été un sacré défi, j'imagine, dès le départ. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit ?
Eh bien, le défi, je crois, pour un lieu culturel, c'est de maintenir le cap. Parce que quand même, pas simple. Et surtout en ce moment, et j'avoue, je ne sais pas trop où on va. J'espère qu'on fêtera quand même les 20 ans. Mais le gros défi, c'est de maintenir un cap, voilà, et d'essayer de continuer à exister, à ouvrir notre lieu pour des créations, quelles qu'elles soient, dans tous les styles, dans tous les genres, ouvert à tous, pour les professionnels bien sûr, mais voilà, d'essayer de garder le cap, ça c'est l'important, ouais.
C'est pas le défi le moindre.
Non.
Alors, ceux qui veulent soutenir le projet associatif de La Charpente dans son ensemble peuvent adhérer, c'est 12€ à l'année. Comment on fait pour adhérer ?
C'est super simple. Alors, soit vous vous précipitez ce week-end à La Charpente et il n'y a pas de souci, on sera là pour vous accueillir. Soit vous pouvez passer par le site de La Charpente, donc assolacharpente.fr, via Hello Asso. Voilà, oui. Vous pouvez faire une adhésion à 12€, donc valable un an de date à date. Et qui, du coup, effectivement, soutient donc l'objet associatif, mais aussi, voilà, en fonction des activités qu'on peut proposer au public, vous donnera des tarifs, évidemment, préférentiels. Mais c'est surtout un engagement à soutenir un projet associatif. Et on peut faire des dons aussi, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique. Donc, vous pourrez avoir le petit rescrit fiscal qui va bien.
Très bien, parfait. À quelle heure est-ce qu'il faut venir, samedi et dimanche ?
Eh bien, c'est à partir de 16h. Donc, voilà, c'est quand vous voulez, après la sieste du petit ou pour l'apéro pour les grands. Enfin, voilà, c'est open. C'est comme vous avez envie, comme vous pouvez.
Et c'est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est toujours important de le rappeler.
Absolument, puisque c'est tout plein pied. Donc, il n'y a vraiment aucun souci.
Merci beaucoup, Nanou. On espère que ce week-end sera ensoleillé. En tous les cas, s'il ne l'est pas dans le ciel, il sera dans les sourires. Ça, on n'en a aucun doute. Merci encore de cet accueil. Un petit mot pour nos auditeurs.
Ben, si vous ne voulez pas cuisiner samedi soir et dimanche soir, il y a une petite restauration, bar et tout ça, bien sympa, qui sera dans la cour aussi. Voilà.
Tout est prévu. Merci beaucoup, Nanou.
Merci à vous. Au revoir.
C'est la fin de ce mag. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition.
Radioactive.
Radio. Radioactive.
Bonjour à vous qui êtes actuellement sur Radioactive. Nous sommes le mardi 30 avril 2024 et tout de suite, place aux actualités locales. Pour débuter ce point info, une histoire de course-poursuite. Hier, un automobiliste clashé et poursuivi par les gendarmes sur l'A85 refuse de s'arrêter après un contrôle de vitesse. C'est ensuite à Chambray-les-Tours que l'homme finit sa course après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Accidenté, il a été ensuite transporté à l'hôpital. Pour continuer dans les délits, vendredi 26, deux hommes ont été pris en flagrant délit en train d'effectuer un cambriolage par les gendarmes. Cela s'est déroulé à Bellemiré, une commune proche de Tours. Les deux hommes, sans domicile et sans profession, ont été jugés dès le lendemain, ce samedi 27 avril, et ont écopé de 11 et 9 mois de prison ferme. Côté actualité politique, comme nous le savons, les élections européennes s'approchent à grands pas. Ainsi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était de passage dans notre région ce lundi pour faire campagne en faveur de la piste Besoin d'Europe portée par Valérie Ayer. Suite à l'invitation du député Daniel Labaronne, une réunion publique a eu lieu dans la commune de Vouvray. Celle-ci a accueilli plus de 150 personnes. Et un petit rappel, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales et jusqu'au 3 mai pour le faire en mairie. Et voilà, c'est tout pour vos informations locales. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Bonne fin d'après-midi à vous qui écoutez Radioactive. Au revoir.
Radioactive, radioactive. La Touraine a trouvé sa radio.
L'ose dire l'unisson. Les espaces et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
Le bleu du ciel, l'horizon. Les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
On offre notre amour sans condition,
sans condition.
On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. La ville qui s'endort, les néons, les mensonges et le bruit des glaçons. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là. On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. Thank you.
on meurt pour de bon. Tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là.
La vie d'une étincelle, un rayon, la surface de la terre, les saisons. Tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là.
On offre notre amour sans illusion, sans illusion. On souffle notre amour à répétition
sous plafond. Tu me manques, pourtant tu es là.
Radioactive.
Something just flicked in your eyes. There's a crack in your gaze, like those broken days. Am I seeing things? Baby, talk to me. Talk to me. Please talk, it's me. Talk to me. Seems like the sun is shining on everyone but me. Won't you talk to me? This is getting scary. Something got hold of your soul. You're like never before. Is there something more? Have I missed anything? Baby, talk to me. Talk to me. Please talk, it's me. Talk to me. Something just changed in my world. And it's killing me.
Mais je dormais pas. Je m'ennuie seule dans ma tête. Et sans étoiles. À trop douter, je me répète. Oh, respire-moi. J'ai peur de t'avouer. Je veux négocier comme un
Mercredi
à 18h15
sur Radioactive
94.7.
À bientôt.
Sans indiscrétion. What's your name?
My name is Daddy.
Petit beautiful, le seuil de mon cœur ouvrant sa porte plein de vie.
Vous êtes américain?
Ou grec? Salade, tomate, oignon, la sauce, c'est vous qui choisissez.
Et quand je lui ai dit, tu es le soleil de la plage.
En anglais.
Son of the beach.
Elle m'a giflé, elle doit pas bien parler l'anglais.
Là, là, les avant de partir dans une ronde de giro. J'ai quand même réussi à lui glisser mon prénom.
Moi je m'appelle
Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi que c'est les doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi que c'est les doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi.
Where are you going comme ça?
I don't know where I go, but I go Slav and you go Slav. Everybody slay.
Qui habite les maisons que les Croates ont laissé aux corbeaux?
Aussi beau,
aussi beau que la Bosnie. Quand je pense il y a des gens qui ont fait le tour de même, ils ont fait le tour du monde.
Tu restes chez eux.
Moi je rêve de boire ma Croatie debout sur les Balkans. Quand personne n'a honte de son voisin, on n'emménage pas loin. Quand personne n'a honte de son voisin.
C'est ce qui le prochain.
Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi.
On se retrouve à Warszawa ou dans les bras de Bratislava.
Des maisons mille.
Vodka nous intéresse.
Oh yes,
et pas de chichi ici.
Non.
Trois bouteilles de whisky et j'en bois toute la nuit.
Oh, c'est bon. Mais c'est pas bon de l'air, non, qui nous a ramené les verres de la chanson.
Mais plutôt Michael Jackson pour la chanson, et Léon Vinci pour la flûte de pont.
Comme tu le vois, on n'a pas de religion, on mange à tous les champignons.
Le pipon est le bonbon à la menthe.
C'est ça le nom de ton groupe?
Mais tu plaisantes. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses niveaux. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses niveaux. Youssef Aïssef, everybody sait faire.